Claire Chaudière pour le journal. Bonsoir Claire.
Bonsoir Fabienne, bonsoir à tous. Un mois après les violences, la cruauté, les exécutions de masse et les viols commis à Boutcha, la justice ukrainienne apporte un début de réponse aujourd'hui. Première mise en examen depuis la découverte des charniers des soldats russes. Une dizaine sont recherchés. Nous serons à Kiev dans un instant. Plus de 30 milliards de dollars, la promesse d'aide de Joe Biden à l'Ukraine depuis la Maison Blanche. Aide économique, humanitaire et armement, alors que Moscou continue de mettre en garde tous ceux qui fournissent ces armes à Kiev. En France, le chômage qui continue de baisser, encore 170 000 inscrits en moins, comme si le marché du travail était pour l'instant insensible aux chocs internationaux. Et si le biogaz faisait partie de la solution pour limiter notre dépendance, on part pour le moment de très bas, nous verrons cela. Une page politique, bien sûr, dans ce journal. Nous irons dans le Var, où le RN lance sa campagne ce soir avec quelques imprévus. Et puis, à Fairfax, aux États-Unis, violence conjugale et grand déballage dans le procès de Johnny Depp contre son ex-femme. Et au téléphone sonne tout de suite Fabienne.
Eh bien, fort de devoir cocher tellement de cases indispensables, on se demande s'il existe quelque part ce Premier ministre que cherche Emmanuel Macron. Apparemment, c'est compliqué puisque le dernier Conseil des ministres ce jeudi finalement ne sera pas le dernier. Cherche Premier ministre désespérément. On essaiera de faire son portrait robot ensemble au 01 45 24 7000.
France Inter.
Et cette annonce, donc, pour commencer, 4 semaines quasiment jour pour jour après les horreurs commises à Boutcha en Ukraine, et alors que le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, s'est rendu sur place ce matin, la justice ukrainienne dit avoir mis en examen ces dernières heures 10 soldats russes pour crimes de guerre, mis en examen en lien avec le traitement cruel de civils et d'autres violations de la loi et des coutumes de guerre. Bonsoir Farida Noir, vous êtes à Kiev pour France Inter avec Fabien Gosset.
Oui, bonsoir.
Ces 10 hommes vont faire l'objet de recherches, annonce faite cet après-midi par le procureur général ukrainien sur son compte Instagram.
Oui, ces 10 soldats appartiennent à la 64e brigade des fusiliers motorisés russes. C'est ce qu'indique le procureur, qui ajoute que l'enquête montre que ces militaires auraient, durant l'occupation de Boutcha en mars, pris en otage des civils qui ne participaient pas aux hostilités et qui n'étaient pas armés. Les occupants ne leur ont donné ni à manger ni à boire, les ont fait se mettre à genoux, leur ont bandé les yeux avec du ruban adhésif et des chiffons, lié les mains avec des attaches plastiques et menacé de les tuer en tirant délibérément dans leur direction. Pour obtenir des informations sur la localisation des soldats ukrainiens, les militaires russes ont également infligé des blessures aux civils, ajoute le procureur. Coups de poing, coups de crosse aux jambes, aux orteils et aux torses. Ils ont aussi pillé la population locale, s'emparant de leurs effets personnels et des appareils électroménagers, précise-t-il. Ces 10 hommes seront recherchés afin de les arrêter, de les traduire en justice. Leur implication dans d'autres crimes, y compris des meurtres avec préméditation, fait actuellement l'objet d'une enquête. C'est ce qu'annonce également la justice ukrainienne.
Farida Noir à Kiev, merci pour ces précisions. Borodyanka et à Boutcha, Antonio Guterres appelait un peu plus tôt dans la journée la Russie à accepter de coopérer dans le cadre de l'enquête de la Cour pénale internationale. La guerre est une absurdité au 21e siècle, a-t-il martelé. Quasi dialogue de sourds toujours, puisque Moscou, de son côté, a encore regretté aujourd'hui, je cite, des actes terroristes dans la région séparatiste de Transnistrie en Moldavie, région appuyée par Moscou. Moscou qui condamne également les livraisons d'armes à l'Ukraine, livraisons qui menacent la sécurité européenne. Selon le Kremlin, à Berlin, les députés ont voté cet après-midi une motion demandant à leur gouvernement, au contraire, d'accélérer encore un peu plus l'acheminement d'armes lourdes vers l'Ukraine. Et aux États-Unis, Joe Biden fait une nouvelle proposition. Il veut utiliser les avoirs saisis auprès des oligarques russes pour compenser les dégâts subis par l'Ukraine. Le président américain, qui prenait la parole depuis la Maison Blanche tout à l'heure pour évoquer son soutien à Kiev, il veut aussi débloquer 33 milliards de dollars d'ici la rentrée. On l'écoute.
Le coût de ce combat est très élevé, mais rester à l'écart reviendrait encore plus cher. Soit nous soutenons le peuple ukrainien qui défend son pays, soit nous ne faisons rien et nous laissons la Russie poursuivre ses atrocités et son agression. Chaque jour, les Ukrainiens le payent de leur vie, alors nous devons les aider avec des armes, des munitions, un soutien économique pour que leur courage et leur sacrifice ne soient pas vains. Nous n'attaquons pas la Russie, nous aidons l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe. Poutine a décidé de lancer cette invasion brutale, il pourrait aussi décider d'y mettre un terme. La Russie est l'agresseur, il n'y a aucune ambiguïté à ce sujet. Et le monde doit tenir, le monde tiendra la Russie pour responsable.
Le président des États-Unis, Joe Biden, quant au géant russe Gazprom, lui aussi au cœur de l'actualité ces derniers jours après la décision de couper le robinet du gaz à la Pologne et à la Bulgarie, il publie cet après-midi ses comptes annuels avec pour 2021 en tout cas une hausse considérable de son bénéfice net qui s'élève à plus de 2000 milliards de roubles, soit 28 milliards d'euros, résultat multiplié par 13. En France, le gouvernement est lui bien décidé à soutenir la production de biogaz pour réduire la dépendance au gaz russe. Notamment, l'exécutif mise sur le développement du gaz, de ce gaz renouvelable, et lance un appel d'offres auprès des industriels. Initiative prévue avant le conflit ukrainien, mais qui tombe à pic. Bonsoir, Célia Kiyeret.
Bonsoir, Claire.
Alors, il faut dire qu'aujourd'hui, on part de très très bas en France sur le biogaz. L'idée, c'est que ça décolle enfin.
Oui, aujourd'hui, le biogaz, c'est 1% seulement de la consommation de gaz en France. L'objectif du gouvernement est d'arriver à 10% en 2030. Ce gaz est produit à partir des déchets de l'agriculture, de l'élevage, et la filière est même plus ambitieuse. Alexandre Rush représente le syndicat des énergies renouvelables.
Ça va permettre une accélération, et quand on se projette un peu à plus long terme, nous, on pense que d'ici 2030, on pourrait couvrir 20% de la consommation de gaz française avec des énergies renouvelables, du gaz renouvelable. Et ce 20%, ça correspond en réalité au volume qu'on importe actuellement de la Russie.
Or, aujourd'hui, il y a beaucoup de petites structures de production de biogaz, notamment des fermes. La filière mise aussi sur de plus grosses usines. L'idée est, par exemple, de traiter encore plus de déchets de l'agriculture ou de l'alimentation.
Typiquement, aujourd'hui, dans les cantines scolaires, par exemple, ou les restaurants d'entreprise, tous les restes sont aujourd'hui déjà utilisés pour faire de la méthanisation. Et demain, il y a de nouvelles obligations qui vont arriver. Vous et moi, on sera conduits à trier nos déchets. On aura une nouvelle poubelle où on pourra mettre les déchets, les épluchures de pommes de terre, toutes ces choses-là, qui seront ensuite des matières qu'on pourra utiliser pour faire du gaz renouvelable.
Et en effet, à partir de 2024, toutes les communes devront avoir mis en place un système de tri des biodéchets. Mais attention aussi aux inconvénients de la méthanisation. Pour certains défenseurs de l'environnement, il ne faut pas que les agriculteurs deviennent massivement des producteurs de fumier ou de lisier, des énergiculteurs peu attentifs à leur bilan carbone.
Célia Kiyeret. Et alors que la croissance américaine subit un coup d'arrêt inattendu au premier trimestre, moins 1,4% pour le PIB américain dans un contexte de forte inflation accélérée par la crise en Ukraine, en France, l'embellie sur le front du chômage semble se poursuivre mois après mois avec des niveaux historiquement bas. Nouvelle baisse de 5% du nombre de chômeurs sans aucune activité au premier trimestre 2022, baisse de 15% sur un an, et cela malgré le contexte international. Donc d'ailleurs, beaucoup de secteurs manquent encore de main-d'œuvre alors que la saison estivale approche, notamment chez les restaurateurs. Recherche désespérément saisonnier, c'est un reportage France Bleu Normandie à Étretat, signé Olivia Cohen.
Bonjour. Au menu, des pâtes, du poisson et des pizzas.
Di Gregorio, une Volcano.
Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de bras pour les cuisiner et les servir.
Si on avait une personne de plus en salle, une personne de plus en cuisine, déjà, ça permettrait de souffler, de rajouter quelques couverts et...
Céline Thomas, la gérante, n'a que ses 3 serveuses et ses 2 cuisiniers. Insuffisant pour accueillir tout le monde.
Un samedi midi où il fait beau, on peut refuser jusqu'à peut-être 50 clients... C'est un peu frustrant quand même.
Le plus urgent, ce serait de trouver un cuisinier chevronné pour la saison. À la place, c'est Prudence qui a été recrutée. Aucune expérience en restauration.
Du tout. Moi, j'étais dans la personne âgée à domicile.
Elle s'occupe de la plonge, elle prépare aussi quelques desserts.
Le patron m'a laissé ma chance et il me forme chaque jour.
Le patron, Grégory Thomas, s'en accommode.
Je préfère des gens qui ont le sourire et la banane et qui sont motivés plutôt que des branleurs qui pensent qu'ils sont les champions du monde, en fait.
Embaucher un débutant, cela veut dire parfois un service un peu ralenti, mais Stéphane, en vacances et qui trinque en famille, n'est pas pressé.
Après, on va pas attendre 2 heures non plus, mais peut-être que avec les pénuries de personnel, oui, on va peut-être attendre un peu plus, mais c'est pas très grave.
Les patrons l'assurent, ils pourraient rester ouverts 7 jours sur 7, mais cet été, ce ne sera donc pas possible.
Et sur les chiffres, les bons chiffres du chômage, la réaction d'Elisabeth Borne, la ministre du Travail. Notre objectif pour les 5 prochaines années est clair, cap sur le plein emploi, dit-elle.
Elisabeth Borne, dont le nom circule parmi une poignée d'autres lorsqu'on évoque le choix du ou de la future première ministre.
Oui, mais sur ce dossier, le temps reste donc suspendu. Pour le moment, le porte-parole du gouvernement a surpris tout le monde à la mi-journée en expliquant que la démission du gouvernement et l'arrivée du suivant n'interviendraient pas avant au moins une semaine. Et pendant ce temps-là, le Rassemblement National lui tente une course de vitesse en lançant, dès ce soir dans le Var, sa campagne pour les législatives, toujours sans ouvrir la porte au parti d'Éric Zemmour. Déplacement de Jordan Bardella dans un département où le RN est arrivé en tête au second tour, mais où tout ne s'est pas tout à fait passé comme prévu aujourd'hui. Anne Souhaitemont y était pour France Inter.
Bonjour monsieur.
L'accueil est aussi cordial que glacial. Jordan Bardella, un peu perdu dans une exploitation viticole dont le patron n'est pas très à l'aise, à l'idée de recevoir le président du RN de surcroît en pleine campagne.
Top départ de la campagne des élections législatives.
Le minimum syndical est assuré devant les caméras.
Vous avez tout rosé.
On travaille les trois couleurs, effectivement.
Mais le tout est plié en 10 minutes à tout casser. La photo média évacue Jordan Bardella.
Quand vous avez 40 caméras, c'est toujours un peu impressionnant, je pense.
Autre salle, autre ambiance. Deux heures plus tard, direction Fréjus, fief aux mains du RN depuis 2014, un endroit sûr. L'image est soignée, Jordan Bardella lance la campagne sous le soleil, la mer en fond, mais les mots sont durs.
Le message que je lance aux Français aujourd'hui est un appel. Ne laissez pas les pleins pouvoirs à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron a été un dirigeant autoritaire.
Un dirigeant autoritaire, voilà donc l'argument du RN pour mobiliser les électeurs, éviter un raz-de-marée macroniste à l'Assemblée nationale, quitte à aller très loin dans la comparaison.
Il ne faudra pas ensuite venir porter des critiques sur des régimes où la démocratie est peut-être moins développée. Je sais pas, je pense à la Russie par exemple. Les 12 et 19 juin prochains, ce qui sera en jeu, c'est la démocratie française.
Jordan Bardella, qui a mis fin au suspense, lui ne sera pas candidat aux législatives, contrairement à Marine Le Pen qui se représente dans son fief d'Hénin-Beaumont.
Anne Souhaitemont, tandis qu'à gauche, le sablier se vide jour après jour et les embûches sont encore nombreuses. Mise en garde de François Hollande ce matin au lendemain de la rencontre entre cadres de la France Insoumise et du Parti Socialiste. Ce n'est pas une discussion, c'est une disparition. Quant aux communistes, ils se joignent aux voix d'Europe Écologie Les Verts pour dire que les tractations s'enlisent un peu. Bonsoir Louise Buyens.
Bonsoir Claire.
Fabien Roussel propose une réunion à quatre forces politiques pour lever les points de blocage.
Les négociations piétinent, on ne va pas assez vite, pas assez fort. Fort, dénonce Fabien Roussel. Les réunions bilatérales, à un moment, ça suffit. Il veut une rencontre avec tout le monde.
Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est que maintenant, nous puissions nous voir ensemble et afficher ensemble cette ambition. Dans une séance de travail, si besoin, mais aussi de se montrer ensemble pour montrer que ça avance et que nous sommes tous favorables à trouver un accord.
Réponse de Jean-Luc Mélenchon à cette idée de réunion commune.
Oui, mais il a qu'à la faire.
Réaction lapidaire de l'insoumis qui estime en avoir déjà fait beaucoup dans les négociations.
Si personne n'est d'accord, ben personne n'est d'accord. On aura fait l'effort d'essayer. Le bloc populaire, c'est un atout que de pouvoir se rassembler. Mais si, bon, y en a qui n'aiment pas l'affiche, un autre n'aime pas la couleur, le troisième n'est pas d'accord avec la mesure 6550, au point de tout casser, bah, les électeurs trancheront. Ils diront ce qu'ils en pensent.
Et c'est vrai, plusieurs points coincent encore. Les écologistes veulent changer le nom de la bannière commune. Les Verts et les communistes veulent obtenir davantage d'investitures pour leurs troupes. Tous ont peur d'être éclipsés par la France insoumise. Autant de blocages à dépasser avant la fin du week-end, date butoir fixée par les partis pour tomber d'accord.
Fin du week-end et donc dimanche 1er mai, fête du travail et ses cortèges qui prendront cette année une dimension particulière une semaine après le deuxième tour de la présidentielle. Et justement au sujet de ce deuxième tour dimanche dernier, sans que cela n'invalide le résultat national, eh bien certaines communes voient leur décompte invalidé a posteriori. C'est le cas de Saint-Zancourt dans la Somme, 36 habitants seulement. Et le hic, François Sauvestre, c'est qu'ici on a voté dans l'église.
Impossible de faire autrement pour le maire Jean-Luc Doutard.
Notre mairie a été défoncée par une voiture.
Mairie hors d'usage, ça fait plus d'un an que ça dure et le seul bâtiment assez grand pour accueillir le vote de dimanche, c'était donc l'église, comme lors des derniers scrutins.
Aux élections précédentes, on a déjà voté dans l'église, on a eu l'accord. Là, le premier tour, on l'a fait dans l'église aussi, il n'y a pas eu de problème. Et puis là, on apprend que les votes sont annulés. Ben, on cherche des histoires pour pas grand-chose.
Dans son rapport, la magistrate déléguée du Conseil constitutionnel, qui est passée à l'improviste dimanche, estime que voter dans une église juste à côté du confessionnal peut, je cite, « porter atteinte à la liberté, à la sincérité du scrutin ». Ce n'est pas l'avis de Jean-Luc Doutard.
Ben, je sais pas, peut-être le bon Dieu. Il y en a certains que ça repousse, mais il n'y a pas eu l'air de repousser quoi que ce soit. Les gens sont venus comme d'habitude. Ça n'a jamais choqué personne. Il n'y a pas eu une réflexion de quoi que ce soit sur ça.
Taux de participation à 6 ans court, 80%, 25 personnes ont voté, dont 7 habitantes, énervées par la décision des sages.
Bah oui, alors on nous dit faut aller voter. Puis maintenant, s'ils ne veulent plus nos élections, on ne votera plus, puis c'est tout. C'est quand même le pompon.
La mairie de 6 ans court ne sera pas réhabilitée d'ici le 12 juin. Les législatives sont donc pour l'instant toujours prévues en l'église Sainte-Marie-Madeleine.
Reportage France Bleu Picardie, signé François Sauvestre. Après la mise en examen pour homicide volontaire hier soir du policier qui a tué deux hommes dimanche sur le Pont-Neuf à Paris, les investigations se poursuivent. La légitime défense n'a donc pas été retenue. La question de l'angle des tirs est au cœur des questionnements de la justice. Le syndicat Alliance appelle par ailleurs à un rassemblement pour défendre la présomption de légitime défense chez les policiers lundi prochain devant le tribunal de Paris.
Ce procès-là se déroule depuis 4 jours à Évry.
Oui, celui de la catastrophe ferroviaire de Brétigny-sur-Orge qui avait fait 7 morts et plus de 400 blessés le 12 juillet 2013. Ce matin, audition importante, celle de l'ex-patron de la SNCF, Guillaume Pépi. Pour lui, le contexte de vieillissement du réseau ou une mauvaise organisation ne sont pas au cœur des facteurs ayant entraîné le drame. Vieillissement ne veut pas dire dangerosité du réseau, a-t-il dit devant le tribunal. Guillaume Pépi, à la sortie de l'audience ce matin.
Je sais que ces accidents de transport collectif ont une violence particulière et que la souffrance ne s'éteint jamais. Et c'est la raison pour laquelle j'ai voulu, devant le tribunal et devant l'ensemble des victimes, exprimer ma totale compassion et ma solidarité entière. C'est un accident totalement inédit qui n'a aucun précédent dans 150 ans d'histoire du chemin de fer en France. Et ce que j'ai dit et que je maintiens aujourd'hui, c'est que la SNCF est responsable de la vie de ses clients. Par conséquent, notre responsabilité morale est une responsabilité morale infinie. Maintenant, quelle est l'origine de cet accident et quelles sont les éventuelles responsabilités? Elles relèvent de ce tribunal et le moment de la justice est un moment qui est très attendu.
Guillaume Pépi au micro de Mathilde Vinceneux. Dans l'actualité aussi ce soir, ce chiffre, 100 000 abonnés de l'opérateur Free ont été touchés par ces actes de malveillance sur le réseau de la fibre optique hier selon l'opérateur. Sabotages qui se sont produits dans la nuit de mardi à mercredi vers 3h du matin. Et puis la Cour administrative d'appel de Paris qui valide aujourd'hui la poursuite du chantier du futur CDG Express entre Paris et l'aéroport de Roissy. Le projet, dit la justice, est justifié par une raison impérative d'intérêt public majeur permettant de déroger aux dispositions du Code de l'environnement. Dans une précédente décision, les juges avaient considéré que l'infrastructure risquait de détruire la biodiversité locale. Et retour maintenant de l'autre côté de l'Atlantique. On vous parle encore d'un procès qui fait couler énormément d'encre aux États-Unis, celui de Johnny Depp contre son ex-femme Amber Heard, qu'il accuse de diffamation et de violence conjugale. En 2018, dans un texte publié dans le Washington Post, c'est elle qui se disait victime de violence conjugale. L'acteur donc contre-attaque. Le procès se déroule à Fairfax près de Washington et face caméra. Autant dire que les tabloïds se régalent, Loïc Loury.
Des vidéos, des extraits sonores, des textos souvent sordides, c'est un grand déballage public qui a lieu en ce moment devant le tribunal de Fairfax en présence des deux intéressés, Johnny Depp d'un côté, Amber Heard de l'autre. Cette semaine, c'est sans broncher que l'actrice a écouté une psychologue la décrire comme une femme pleine de rage à la personnalité borderline. Son ex-mari l'accuse, elle, d'être violente et nie l'avoir jamais frappée.
Never.
Jamais je n'ai atteint le point où j'ai cogné Madame Heard d'une façon ou d'une autre, ou toute autre femme d'ailleurs. Un jour, c'est une image, vous êtes Cendrillon et une fraction de seconde plus tard, vous devenez Quasimodo. Je ne méritais pas ça. Johnny Depp réclame 50 millions de dollars à Amber Heard. Elle demande le double, également pour diffamation, et devrait bientôt venir à la barre, comme lors d'un premier procès à Londres en 2020. À l'époque, l'actrice avait parlé d'une douzaine d'agressions agression et évoqué un monstre transformé par la drogue et l'alcool. Une affaire qui va faire encore quelques semaines les choux gras de la presse à scandale. New York, Loïc Clory, France Inter.
Voilà, et pour terminer ce journal, cette information tombée il y a quelques minutes, on apprend qu'un hommage funèbre sera rendu demain après-midi aux Invalides à l'acteur Jacques Perrin, décédé le 21 avril à l'âge de 80 ans. Hommage en présence de la ministre des Armées, Florence Parly.
Merci beaucoup Claire Chaudière pour le journal. Pour nous, ça continue. La dernière heure du 18-20, c'est le téléphone sonne. On va tâcher de faire ensemble le portrait robot du futur Premier ministre ou de la future Premier ministre. Un œil sur le ciel avant.
La météo avec Euromaster. Toujours là pour entretenir les véhicules des pros et des particuliers. Depuis 30 ans, les experts Euromaster sont au service de votre mobilité et de votre sécurité.
Jean-Pierre Hameau de Météo France. Jean-Pierre, malgré l'arrivée d'une perturbation, le temps restera bien sec.
Oui Fabienne, avec un champ de pression anticyclonique, cette perturbation sera très atténuée, essentiellement nuageuse. Et pourtant, notre pays souffre aujourd'hui d'un déficit important en eau. Nous constatons déjà une sécheresse de surface très avancée pour la saison. Demain, cette perturbation nuageuse va traverser la moitié nord du pays d'ouest en est. Elle va intéresser en matinée les pays de la Loire, la région Poitou-Charentes, Centre-Val de Loire, l'Île-de-France et les Hauts-de-France. Elle va progresser l'après-midi vers la Champagne-Ardenne, la Bourgogne, la Lorraine, puis en soirée vers l'Alsace et la Franche-Comté. Après le passage de cette perturbation, vous retrouverez un ciel partagé entre éclaircies et cumulus inoffensifs. L'ensoleillement restera généreux entre le Languedoc-Roussillon et la région Rhône-Alpes et de la région PACA à la Corse. À noter une évolution orageuse avant la fin de la journée sur le massif pyrénéen, mais aussi du côté du massif central. Puis un petit mot pour samedi, pour vous annoncer une belle journée printanière, souvent ensoleillée. Seules les frontières de l'Est et le massif pyrénéen restent sous les nuages avec en prime quelques averses orageuses.
Merci beaucoup Jean-Pierre Hameau de Météo France.